Les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 11 juin, chez Robin Dorcil et Nathalie Barge, en votre compagnie. Au sommaire ce soir, nouvelle violence en Centrafrique. Au moins 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans le centre-est du pays.
Ces violences ont débordé à Bambari, où des barricades ont été érigées dans certains quartiers.
La République démocratique et le Rwanda s'accusent mutuellement d'être à l'origine d'un échange de tirs aujourd'hui sur leur ligne frontalière.
En Irak, les djihadistes continuent leur progression après la prise de Mossoul, la deuxième ville du pays.
Et dans notre spéciale Coupe du Monde...
La fête est déjà dans tous les esprits au Brésil. Il ne manque plus que le coup de sifflet de l'arbitre pour commencer.
Nous écouterons notre envoyé spécial Nicolas Pino et la musique en fin d'émission avec Roger Muntu. Pour l'instant, le journal.
En Centrafrique, alors que les travaux préparatoires du dialogue national pour la réconciliation se poursuivent à Bangui, de nouvelles violences sont signalées au centre-est du pays. Au moins 21 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées et une centaine de maisons ont été brûlées dans le village Liwa, à 10 km de Bambari. Le point avec Idriss Fall.
À Bangui, les travaux se poursuivent pour préparer le futur dialogue national. Les participants tentent de trouver un canevas pour corriger les erreurs du passé, car le pays a déjà tenu de multiples dialogues sans aboutir à la paix et à la réconciliation. Pour Alexandre Libesking du Centre Afrique pour le dialogue humanitaire, la poursuite des violences peut tout remettre en cause.
Tant que la violence malheureusement perdure, tant que la tentation de la prise des armes est là, la pression pour un accord politique demeure. Donc je ne pense pas que la continuation de la violence que je déplore, chaque vie perdue est une vie perdue de trop, doivent remettre en cause le travail nécessaire d'un dialogue politique.
Selon un membre de la Croix-Rouge locale de Bambari, des affrontements ont opposé lundi et mardi de jeunes musulmans armés à des non-musulmans dans le village de Liwa, près de Bambari. L'attaque a fait au moins 21 morts, des blessés et une centaine de maisons ont été incendiées. Ces violences ont débordé à Bambari, où des barricades ont été érigées dans certains quartiers.
Échange de tirs aujourd'hui entre soldats de la République démocratique du Congo et du Rwanda à la frontière commune près de Goma, la capitale du Nord Kivu. Kinshasa confirme la mort d'un de ses soldats. Précision Timothée Donangmaï.
Ces combats ont commencé tôt le matin et ont duré plusieurs heures à Kanyesheza, un territoire de Nyiragongo dans le Nord Kivu. De nombreux habitants ont fui la zone suite à ces affrontements. Des sources militaires congolaises disent que les militaires rwandais ont enlevé un élément des FARDC qui était en position à Kanyesheza. Le porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, a déploré ce qu'il a présenté comme étant une attaque sans motif de soldats rwandais. De son côté, le Rwanda accuse des soldats congolais d'avoir effectué une incursion sur son territoire et tiré sur ses soldats. Un communiqué gouvernemental citant la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, a exhorté les autorités de la RDC à cesser toute attaque contre le territoire rwandais. Selon l'AFP, le gouvernement rwandais a saisi le mécanisme conjoint de vérification de la frontière qui regroupe plusieurs pays africains et l'ONU.
15 ans de prison, c'est la peine infligée au militant égyptien Alaa Abdel Fattah et 24 de ses partisans par la justice égyptienne. Il a été reconnu coupable d'avoir mené une manifestation illégale avec violence sur la police. Issa Napon.
Abdel Fattah et ses partisans ont été reconnus coupables de deux faits majeurs. L'organisation des manifestations en violation d'une loi limitative entrée en vigueur en novembre dernier en Égypte et de violences sur un policier. Ils ont été jugés par contumace car les forces de sécurité leur ont refusé l'accès à la salle d'audience. Alaa Abdel Fattah est le célèbre militant qui a dirigé les manifestations qui ont conduit à la chute de Hosni Moubarak en 2011. Il est resté très mobilisé contre les procédés civils dans les tribunaux militaires. Les sentences retenues contre eux sont les toutes premières visant des militants pro-démocrates depuis l'investiture du tout nouveau président Abdel Fattah El-Sissi.
au moins 4 militaires tchadiens et maliens ont été tués lors d'un attentat à la voiture piégée à Aguelhok, dans le nord du Mali, selon une source militaire de la mission de l'ONU, la MINUSMA.
Et 8 personnes ont été tuées mercredi par des hommes armés qui ont attaqué 3 villages de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria, théâtre d'affrontements fréquents entre communautés. Les attaques se sont produites aux premières heures du matin quand des hommes armés ont ouvert le feu sur des civils et ont incendié des maisons dans les villages de Bachit, Rim et Jol, dans le district de Riom.
Les autorités de Borno au Nigeria disent ne pas avoir eu connaissance d'un enlèvement de 20 femmes près de Chibok, une nouvelle citée par les agences de presse. Le commissaire de police de Borno, Lawal Tanko, a dit à la Voix de l'Amérique que la police locale n'était pas au courant. L'Associated Press a rapporté que des militants présumés de Boko Haram ont enlevé 20 femmes à Garkin la semaine dernière.
Le président de l'Assemblée nationale camerounaise, Kavaye Yegye Djibril, a demandé l'implication des chefs traditionnels du nord du pays dans la lutte contre Boko Haram. Lui-même chef traditionnel, il a appelé ses pairs et les élus locaux à sensibiliser sur la menace de Boko Haram, ajoutant qu'aucune complicité ou duplicité ne sera tolérée. Certains chefs traditionnels du nord du Cameroun ont été accusés de protéger des islamistes présumés. Le Cameroun a déployé un important dispositif militaire dans le nord, devenu la cible d'attaque depuis plusieurs mois, et quelques 3000 soldats et gendarmes doivent être mobilisés dans les prochaines semaines.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar se sont fixés 2 mois pour former un gouvernement de transition, a annoncé mardi le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn à l'issue d'une rencontre à Addis Abeba.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les islamistes qui ont pris la ville de Mossoul hier continuent leur progression. Ils sont entrés aujourd'hui à Tikrit, à moins de 200 km de Bagdad. On écoute Jean-Roger Bion.
Les militants islamistes ont progressé au sud de Mossoul et contrôlent désormais la plus grande raffinerie de pétrole de l'Irak et Tikrit, la ville natale de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein. Les insurgés sont entrés dans la ville de Beji. Mardi soir, selon l'armée, ont mis le feu à la station de police et au palais de justice. Ils ont garanti la vie sauf aux agents de sécurité s'ils acceptaient de quitter le complexe pétrolier. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Oshia Zebari, a appelé les dirigeants irakiens à s'unir pour faire face à ce qu'il a appelé une menace grave. La prise des villes irakiennes par les islamistes et leur progression fulgurante constituent une cuisante défaite pour le gouvernement de Nouri al-Maliki. Par ailleurs, la Turquie a annoncé l'occupation de son consulat à Mossoul par les islamistes. 48 personnes, dont le consul turc, sont retenues en otage.
Grève des taxis en Europe. Ils protestent contre la concurrence jugée déloyale des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur, en particulier celles offertes par la société américaine Uber. Bagassi Koura.
Le mouvement de protestation est parti de Grande-Bretagne où les célèbres taxis noirs qui travaillent pourtant à côté des VTC depuis des dizaines d'années s'inquiètent de la place croissante prise par la société californienne. À Londres, les taxis se sont garés à Trafalgar Square de 14h à 15h heure locale. À Madrid, la grève doit durer 24 heures. À Rome, les chauffeurs envisageaient une grève à l'envers avec des courses au prix maximum de 10 euros pour s'allier sur les tarifs de la concurrence. La start-up Uber a été créée en 2009 à San Francisco par une application sur téléphone portable et met en relation ceux qui veulent se déplacer à des chauffeurs particuliers dans plus de 70 villes et dans 36 pays. La société empoche une commission sur la course et grignote ainsi sur les prix qui s'affichent au compteur des taxis.
La Russie a averti l'Ukraine contre tout refus de l'offre faite par Moscou de réduire d'environ 20% le prix du gaz vendu à Kiev. L'Ukraine pourrait causer l'échec des négociations en demandant un rabais plus élevé, a déclaré le président Vladimir Poutine. Les deux parties se rencontrent à Bruxelles pour tenter de réviser un contrat datant de 2009. L'Ukraine doit des milliards de dollars à la Russie.
En Corée du Sud, 6000 policiers ont effectué un raid aujourd'hui dans un complexe religieux. Ils voulaient arrêter l'homme d'affaires Yoo Byung-hun, qui est recherché dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du Sewol, qui a fait plus de 300 morts en avril dernier. Pour la deuxième fois, il a pu s'échapper. Le capitaine du Sewol et son équipage font face à la justice pour négligence et homicide.
En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a exhorté les parlementaires à cesser de politiser le problème du viol. Dans son premier discours devant l'Assemblée, il a déclaré que le respect et la protection des femmes devraient être une priorité pour tous les citoyens du pays. Des déclarations faites suite au viol de deux adolescentes par un groupe d'hommes le 28 mai dernier dans le nord de l'Inde.
Le secrétaire américain à la Défense a défendu aujourd'hui devant la Chambre des représentants la décision d'échanger 5 prisonniers afghans contre le sergent Bo Bergdahl sans informer le Congrès. Chuck Hagel a évoqué des circonstances exceptionnelles, disant que le temps n'était pas de notre côté. Selon M. Hagel, l'échange de prisonniers a été conclu de manière légale et le département de la justice a dit au président Barack Obama qu'il était constitutionnellement autorisé à prendre cette décision.
Toujours aux États-Unis, la réforme de l'immigration est en péril cette année, selon certains analystes. Après la défaite du numéro 2 des Républicains à la Chambre basse, Eric Cantor a été battu par un candidat conservateur du Tea Party, le professeur David Bratt. Cantor a été fortement critiqué par la droite républicaine pour son soutien d'un projet de loi qui aurait permis aux enfants d'immigrants illégaux de rester aux États-Unis et éventuellement obtenir la citoyenneté américaine.
Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 à Washington. Chez Ruben Dorcil et Nathalie Barge, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, notre magazine.
La multinationale britannique Soco International a accepté de cesser toute opération pétrolière dans le parc des Virunga en RDC. L'accord a été annoncé par le Fonds mondial pour la nature dans un communiqué publié aujourd'hui. En octobre 2013, ce fonds avait déposé une plainte contre Soco, contre les activités de l'entreprise dans le parc des Virunga. Une médiation s'en étant suivie. Camille Grosdidier a joint Pierre Attray du fonds en Suisse.
Ça fait déjà depuis plusieurs mois que nous essayons d'obtenir une telle décision. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment tous très heureux que Soco ait pris cette décision.
La région est un site africain classé au patrimoine mondial.
Oui, en effet, le parc des Virunga, c'est d'abord le plus ancien parc national d'Afrique. Et puis, c'est également un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Soco a également pris l'engagement de ne jamais pratiquer d'activité pétrolière dans un site qui est classé au patrimoine mondial. Donc c'est, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle.
Ce projet de forage de la Soco International avait été accompagné d'une montée de la violence dans le parc et aux alentours, dans toute la région. On songe notamment à l'attaque dont a fait l'objet le directeur des parcs des Virunga, M. de Mérode.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que toute la région est déjà depuis pas mal d'années, malheureusement, en proie à des instabilités au niveau politique. Et bien sûr, on peut imaginer qu'après de tels projets qui ont sans doute suscité, évidemment, chez certains, l'espoir de gagner de l'argent. Il ne faut pas oublier que c'est une région qui est très, très pauvre. Et nous estimons aussi que, justement, il est important d'essayer de restaurer une certaine stabilité dans cette contrée de façon à ce que pas seulement les gens du parc, mais aussi toute la population locale puisse vivre dans des conditions qui sont un peu meilleures que celles qu'elles connaissent ces dernières années. Nous espérons simplement que maintenant, aussi bien Soco que d'autres entreprises pétrolières soient peut-être un peu mieux sensibilisées à l'importance de la préservation de la nature.
Pierrette Ray est une responsable du Fonds mondial pour la nature.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à-côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique. Samba, Samba.
Cap maintenant sur l'Irak. Les islamistes radicaux ont pris Mossoul, la deuxième ville de l'Irak, et sont entrés aujourd'hui à Tikrit, la ville natale de l'ancien dictateur Saddam Hussein. Mais que signifie cette progression des islamistes pour le gouvernement de Nouri al-Maliki? Idriss Fall a joint à Madrid le professeur Barra Mekhaïl, directeur de recherche à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur.
L'Irak, une fois encore, s'enfonce non seulement dans la violence, dans la complète désintégration et une absence totale de cap et d'horizon politique, tout comme économique et social pour la population. Non seulement le gouvernement de Nouri al-Maliki qui avait du mal jusqu'à présent à tenir la situation à niveau national, mais de surcroît, le fait que maintenant une organisation issue du mouvement Al-Qaïda puisse dire « nous gérons une partie large du pays », cela est un très grand revers qui est adressé à Mali et à sa gestion des affaires du pays.
Mais c'est un revers aussi pour la communauté internationale.
Sur le plan de la communauté internationale, il va de soi que personne, ou très peu de monde à tout le moins aujourd'hui, pourront encore aller jusqu'à dire que les États-Unis avaient eu raison en envahissant l'Irak et en gérant l'après Saddam Hussein de cette manière. L'argument selon lequel on s'est débarrassé d'un dictateur est un bon argument, mais force est de constater que les tendances autoritaires et complètement erronées côté gestionnaire de Nouri al-Maliki, ainsi que son incapacité à constituer une armée et à la pousser à tenir les perspectives sécuritaires dans le pays, sont quelque chose qui montre que la communauté internationale n'a absolument pas su développer une feuille de route conforme aux intérêts de l'Irak.
Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une jonction avec les islamistes radicaux qui se battent en Syrie aussi?
On ne peut pas entièrement déconnecter ce qui se passe en Irak de ce qui se passe en Syrie, ce d'autant plus que l'État islamique en Irak et au Levant, qui est l'ex-Al-Qaïda en Irak, a lui-même des contingents et des hommes qui se battent en Syrie. Et l'une des premières déclarations de l'État islamique en Irak et au Levant a d'ailleurs insisté sur le fait que ce qui se passait en Irak ne pouvait pas être déconnecté de Syrie. Mais je crois que le gros de ce qui se joue se concentre vraiment sur le territoire irakien et que, à contre-coup, il va y avoir une stratégie de lutte contre ces djihadistes dans une phase ascendante en Irak et cette lutte contre eux ne va absolument pas bénéficier aux djihadistes présents en Syrie. Je dirais même au contraire, par ricochet, finalement le régime de Bachar al-Assad qui, pour sa part, va se sentir des raisons supplémentaires de se sentir confortable parce que lui-même a dénoncé le risque djihadiste depuis quelques années maintenant.
Le professeur Barra Mekhaïl, directeur de recherche à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur.
On vous en a parlé dans les nouvelles. Ici aux États-Unis, les analystes politiques craignent que la défaite surprise d'Eric Cantor, le numéro 2 de la Chambre des représentants, lors d'une primaire républicaine, ne compromette la réforme des lois sur l'immigration. Des précisions avec Michel Joseph.
Eric Cantor est un républicain influent de la Chambre basse, un conservateur bon teint qui, disait-on, allait tôt ou tard remplacer John Boehner à la tête des républicains de la Chambre. Il a été battu par un obscur politicien, le professeur d'économie David Bratt, qui bénéficiait de l'appui du Tea Party, que l'on disait pourtant en perte de vitesse. Monsieur Cantor a été victime, estime-t-on, de son soutien à une proposition de loi qui aurait permis aux enfants d'immigrés sans papier de rester aux États-Unis et de devenir éventuellement des citoyens américains. Pour son adversaire Bratt, cette position de Cantor équivaut à accorder l'amnistie à des gens qui ont violé les lois américaines en entrant illégalement dans le pays. Cantor était considéré comme à droite de son propre patron, Boehner. Il aurait même bloqué un compromis budgétaire entre le président de la Chambre et Barack Obama, dont il était un farouche adversaire politique. Les conservateurs républicains ont attaqué les propositions du président démocrate pour réformer l'immigration. Mais le projet approuvé l'an dernier au Sénat est pratiquement resté dans les tiroirs à la Chambre des représentants. Avec la défaite du très influent Cantor, on s'attend à ce que les parlementaires conservateurs reprennent du poil de la bête et s'opposent à toute réforme qui accorderait la citoyenneté à quelque 11 millions d'immigrés vivant illégalement aux États-Unis. Les républicains sont pourtant conscients du fait que le président Obama a été réélu grâce en partie à la force électorale croissante des hispaniques américains dont la majorité appuie des réformes.
Thank you. Le journal de la Coupe du Monde au Brésil, tous les jours sur nos antennes avec Bega Sikoura et notre envoyé spécial Nicolas Pinot.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de la Coupe du Monde. Puisque quelques heures, on sera en plein dans le Mondial 2014 sur place au Brésil. On met les bouchées doubles pour que tout soit prêt pour la grande cérémonie de demain à Sao Paulo, ville récemment affectée par une grande grève des transports. Les commerçants espèrent tirer profit de la Coupe du Monde, comme l'a constaté notre envoyé spécial Nicolas Pinot.
Dans le poumon économique brésilien, les activités ont repris. La grève qui a paralysé Sao Paulo et inquiété la planète football est encore dans tous les esprits. Les commerçants du centre-ville espèrent pouvoir se rattraper avec la Coupe du Monde et ses touristes venus du monde entier. Maria Elizabeth tient une boutique près du métro.
J'ai vraiment souffert de cette grève. J'habite à Santana, au nord de la ville. Je dépends beaucoup du métro pour me déplacer. Tout le monde a été affecté, mes ventes ont chuté. Les clients ne venaient pas à cause de cette grève.
À Itaquera, où aura lieu le match d'ouverture Brésil-Croatie, on met les bouchées doubles. Officiellement, l'Arena Corinthians est prête, mais de nombreux ouvriers travaillent encore sur le site. Les bâches, les ascenseurs de chantier sont encore visibles. La pelouse aux abords du stade vient d'être posée et les jardiniers tentent de combler le retard. Les retards, c'est justement ce qui est fortement reproché depuis des mois au comité d'organisation brésilien. Raphaël Alcadipani, chercheur brésilien.
Depuis 50 ans, il y a eu des Coupes du Monde dans d'autres pays et personne n'a autant posé de problèmes à la FIFA que le Brésil. C'est un message fort envoyé au monde. Les Brésiliens n'acceptent pas le mode de gouvernance du football mondial. Il faut changer la FIFA pour que le football redevienne populaire à nouveau.
Les ratés de l'organisation n'ont pas empêché les supporters de se préparer dans la joie à cette ouverture du mondial. Ils sont nombreux ce jour-là à se prendre en photo pour marquer l'événement. Petits et grands ne rêvent que de ça.
Super contento.
Je suis très contente, ce pays est merveilleux, les gens sont très aimables, attentionnés et adorables.
La fête est déjà dans tous les esprits au Brésil, il ne manque plus que le coup de sifflet de l'arbitre pour commencer. Nicolas Pinot, Sao Paulo, pour la Voix de l'Amérique.
Le sélectionneur des États-Unis, Jürgen Klinsmann, a estimé que son équipe n'était pas un outsider dans le groupe D, le groupe de la mort avec l'Allemagne, le Portugal et le Ghana. Nous sommes impatients de jouer le premier match lundi contre le Ghana, a expliqué en conférence de presse ce mercredi le champion du monde 90 avec la RFA. L'Argentin Lucas Ledesma a pédalé pendant 18 jours de Cordoba à Rio de Janeiro, soit 2649 km. Ce professeur d'éducation physique de 26 ans rêvait d'assister à un mondial comme beaucoup de supporters argentins. Il n'a pas de billet pour les matchs, mais pour lui, le plus important, c'est de participer à la fête. Scolari en deuil, un neveu du sélectionneur de l'équipe du Brésil, Luis Felipe Scolari, est décédé dans un accident de la circulation à quelques heures du premier match de la Seleção dans son mondial, jeudi contre la Croatie à Sao Paulo. Et parmi les 5 pays africains au mondial, l'Algérie, le seul pays arabe qui sera au Brésil 2014, a remporté 4 victoires lors des 4 derniers matchs de préparation. Sans bruit, la moins cotée des équipes africaines au mondial créera peut-être la surprise en sortant d'un groupe homogène avec la Russie, la Belgique et la Corée du Sud. Mohamed Zerouki, journaliste sportif au journal Al-Watan à Alger, nous parle de la santé de l'équipe algérienne.
Si on prend en considération les 2 derniers matchs contre la Roumanie et l'Arménie, on pourrait dire qu'ils sont en bonne forme. Sauf qu'il y a un point d'interrogation en ce qui concerne la défense qui reste un peu faible. Et là, il faut trouver une solution, surtout du côté gauche. Le premier match face à la Belgique, ce n'est pas du gâteau. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe, pour ne pas dire une des meilleures équipes du monde. Mais en football, il y a toujours des surprises. En 82, en Espagne, personne ne s'attendait que l'Algérie allait battre l'Allemagne, qui en ce temps était la meilleure équipe du monde. Et l'Algérie l'a battue Bon, Halilhodžić, c'est un technicien qui ne se laisse pas faire. C'est-à-dire que quand il fait une composition d'une équipe, c'est lui qui l'a fait. Il s'impose. Et je crois que c'est un fin technicien. Et il a ses petites astuces. Vous savez, en 82, on n'est pas passé parce que le match entre l'Autriche et l'Allemagne, il a été trafiqué. Et c'est pour ça que l'Algérie n'est pas passée. Donc, on avait une très belle équipe. Cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'on n'a pas une bonne équipe. On a une très bonne équipe parce qu'elle représente tout le monde arabe. C'est l'unique équipe du monde arabe et du monde musulman qui se présente. Je dirais que c'est une équipe, elle est faite de pros. Et je crois que c'est une bonne équipe, sauf pour la défense où il doit y avoir une petite retouche.
C'était Mohamed Zerouki, journaliste sportif au journal Al-Watan à Alger. Et voici maintenant le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué. Aujourd'hui, notre consultant football nous parle des Super Eagles du Nigeria.
Bonsoir. Dans le match à distance qui les oppose aux Camerounais, aux Ivoiriens et autres Ghanéens, pour la place de meilleur performeur africain lors de cette Coupe du monde brésilienne, les Super Eagles du Nigeria partent sur des acquis incontestables. Le football de ce pays continent revient sur le devant de la scène, aussi bien dans la catégorie des jeunes qu'au niveau de l'équipe fanéon, avec à la clé le titre de champion du monde et celui de champion d'Afrique. Mais c'est surtout l'éclosion de plusieurs talents interchangeables et le retour à un jeu consistant qui a toujours su trouver un équilibre parfait entre spectacle et efficacité, jeu collectif et coup d'éclat individuel qui rassure le plus. Au point que nombreux sont les passionnés qui peuvent citer quatre noms d'internationaux nigériens alors que la prestation d'ensemble convainc les plus sceptiques. C'est par ce collectif, cette solidarité retrouvée, le sens traditionnel du rythme de la rupture et du contre-pied que les Super Eagles du Nigeria ont la volonté de confirmer au plus haut niveau le retour de ce géant du football africain qui a ébloui le monde dans un passé récent à travers les dribbles d'un Mathematical Odegbami, la bista d'un Henri Wosu, les gris-gris d'Okocha ou la fougue de Yétini, le taureau de Kaduna. Certes, le Nigeria a aligné des résultats modestes lors de la préparation, mais les aigles se retrouveront sûrement dans tous leurs états offensifs dès le premier match contre l'Iran à Salvador le 16 juin. Le rendez-vous est pris. À demain.
Voilà, c'est tout pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde. Au micro, Bagassi Koura, merci de nous avoir suivis.
Merci Bagassi. Et pour clore ce segment sport, signalons la victoire des San Antonio Spurs sur le Miami Heat hier soir dans la série finale de la NBA. Les Spurs mènent par 2-1 pour le club de la Floride. Termine la musique, Nathalie.
Oui, Roger Muntou a sélectionné Michael Jackson pour terminer le magazine Slave to the Rhythm.
She dances to his needs. She dances still. He feels just right until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quickly cooks his food. She can't be late, can't take too long.
Et sur cette note s'achève Le Monde aujourd'hui. Georges Léonard Sagno, GLS pour les intimes, a dirigé la mise en onde. Nelson Lopez était à la console technique. Et puis, Souley B, bien sûr. Laissez-nous vos messages sur Facebook. avec Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. C'était Le Monde aujourd'hui.